VOA Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, le monde aujourd'hui, édition du jeudi 4 mai 2017, en direct de Washington. Edressa Sedoudia et Jean-Roger Bio. Pour commencer, les titres.
Au Congo-Brazzaville, la condamnation de l'opposant Modeste Boukadia à 30 ans de travaux forcés, confirmée par la cour d'appel de Pointe-Noire.
En République démocratique du Congo voisine, l'épiscopat catholique exhorte le président Joseph Kabila à laisser l'opposant Moïse Katumbi retourner en homme libre dans son pays.
Au Mali, un mort et 9 blessés dans une attaque terroriste contre le camp de la MINUSMA à Tombouctou.
Les Émirats arabes unis optimistes après une rencontre entre les deux principaux protagonistes du conflit en Libye.
La Corée du Nord et la menace de son programme d'armes nucléaires et de missiles balistiques au centre de la réunion ministérielle de l'ASEAN aujourd'hui à Washington.
Le président Donald Trump et le palestinien Mahmoud Abbas optimistes quant à une percée diplomatique au Moyen-Orient après leurs entretiens hier à la Maison-Blanche.
Et puis, il ne manque pas le reportage de Nicolas Pinault, l'envoyé spécial de VOA Afrique au Tchad, notre page sport ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
Au Congo-Brazzaville, la cour d'appel de Pointe-Noire, deuxième ville du sud du pays, a confirmé mercredi la condamnation à 30 ans de travaux forcés de l'opposant Modeste Boukadia. Cet opposant de 62 ans avait été jugé en première instance en 2014 pour atteinte à la sûreté intérieure de l'État, les autorités l'accusant notamment d'avoir voulu organiser un référendum d'autodétermination de l'État du Sud-Congo. La confirmation de sa peine a été annoncée à l'AFP par son avocat, Maître Magloire Senga.
De l'autre côté du fleuve, à Kinshasa, l'épiscopat catholique de la RDC a plaidé dans un rapport confidentiel auprès du président Joseph Kabila pour que l'opposant Moïse Katumbi retourne en homme libre dans son pays après un an d'exil. Monsieur Katumbi, candidat déclaré à la prochaine présidentielle, a été condamné à 3 ans de prison pour spoliation d'immeubles appartenant à un ressortissant grec.
Moïse Katumbi attend aussi de comparaître devant la justice pour une affaire de recrutement présumé de mercenaires. Les autorités ont promis de l'arrêter dès son retour au pays. Il a été autorisé par la justice à se rendre à l'étranger pour suivre des soins médicaux depuis mai 2016.
Au Mali, un mort et 9 blessés, c'est le bilan de l'attaque terroriste au mortier ou à la roquette lancée contre le camp de la MINUSMA à Tombouctou. Tous les 9 blessés, dont 4 grièvement, sont des casques bleus du contingent libérien. Précision de notre correspondant, Kassim Traoré.
C'est le super camp de la MINUSMA bâti sur une superficie de 52 hectares situé à 4 km du centre-ville de Tombouctou qui a fait l'objet d'une attaque terroriste. Et pourtant, les usagers de ce camp ont passé une matinée paisible et ne doutaient de rien. C'est vers 13h15 que des terroristes ont lancé des mortiers ou roquettes contre le plus grand camp de la MINUSMA à Tombouctou. C'est par de grosses détonations que les habitants de la périphérie ont senti le choc. Une grande fumée a brouillé le ciel vers l'aéroport de la ville. Selon les responsables à la communication de la MINUSMA, 6 obus ont atterri sur leur supercamp. Le bilan est d'un mort, 9 blessés parmi les casques bleus, dont 4 grièvement qui ont été évacués à Bamako. Des dégâts matériels ont été également causés. Les casques bleus touchés dans cette attaque sont tous du contingent libérien. Aucun personnel civil n'a été affecté. Par la suite, la MINUSMA a renforcé la protection du camp et déployé des moyens aériens de reconnaissance pour identifier la zone où les tirs ont été lancés. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Les autorités ivoiriennes ont lancé hier à Abidjan une vaste opération de destruction d'un marché qui vendait de faux médicaments. Eric Manerakiza.
Quelques 150 policiers et gendarmes ont pris d'assaut hier au petit matin le quartier Roxy du grand marché d'Adjamé, quartier populaire d'Abidjan. Ils ont détruit les échoppes en tôle pour en extraire de nombreux cartons de faux médicaments. La pharmacie par terre est très populaire en raison des bas prix. Pour le docteur Parfait Kouassi, ancien président de l'Ordre des pharmaciens, la contrefaçon représente 30% des ventes de médicaments et le secteur pharmaceutique légal enregistre chaque année une perte de 40 à 50 milliards de francs CFA. Abidjan avait déjà incinéré le 10 mars 50 tonnes de faux médicaments pour une valeur estimée à plus d'un million d'euros. Près d'un médicament sur trois vendu en Afrique est illicite ou contrefait. Selon l'Organisation mondiale des douanes, l'Inde est le premier fournisseur de vrais médicaments introduits en contrebande ou de médicaments périmés, tandis que les faux médicaments viennent le plus souvent de la Chine.
En Somalie, le ministre des Travaux publics, Abdullahi Siraji, a été tué par balle hier à Mogadiscio, apparemment par accident selon des sources policières et gouvernementales. Le véhicule dans lequel se trouvait le ministre a été touché par erreur par des tirs des gardes de sécurité qui se trouvaient à l'extérieur du palais présidentiel.
Les Émirats arabes unis se disent optimistes après une rencontre entre les deux principaux protagonistes du conflit en Libye, un sujet abordé hier par le président égyptien Abdel Fattah el-Sissi lors de ses entretiens à Abu Dhabi. Le point avec Jacques Aristide.
Au début de sa visite de deux jours, le président Sissi s'est entretenu avec le prince héritier d'Abu Dhabi de la crise libyenne. Le président égyptien est un allié du maréchal Khalifa Haftar, chef des forces armées des autorités parallèles dans l'Est libyen, rival de Fayez al-Sarraj, chef du gouvernement d'Union nationale basé à Tripoli. Les deux hommes ont tenté à Abu Dhabi de trouver un terrain d'entente sur un règlement de la crise libyenne. Pour le ministère des Affaires étrangères des Émirats arabes unis, la rencontre entre Sarraj et Haftar suscite de l'optimisme quant à une solution politique en Libye. Il a ajouté que c'était un pas important dans le processus politique. L'Égypte, l'Algérie et la Tunisie ont également joué un rôle dans le rapprochement des points de vue entre les belligérants. Les Émirats veulent qu'un nouvel émissaire de l'ONU pour la Libye soit nommé en remplacement de Martin Kobler. L'ONU avait proposé le Palestinien Salam Fayyad pour le poste, mais les États-Unis ont mis leur veto.
Les juges du Soudan du Sud ont entamé une grève pour demander une hausse de salaire et la démission du président de la Cour suprême, Anastasie Toudiech.
La grève a débuté mardi suite à l'échec des discussions entre les juges et le gouvernement du président Salva Kiir. Les juges demandent une augmentation de leur salaire, de meilleures conditions de travail et la démission du président de la Cour suprême, Chanrek Madout, qu'ils accusent de mal gérer le système judiciaire. Ce débrayage des 274 juges du pays paralyse tout le système judiciaire. Les magistrats, comme la majorité de la population, subissent de plein fouet la chute de la monnaie nationale. Le salaire d'un juge débutant, équivalent à 1 200 $ avant le début de la guerre civile, est aujourd'hui de 25 $. Le Soudan du Sud a plongé en décembre 2013 dans un conflit interne qui a fait des dizaines de milliers de morts et plus de 3 millions de déplacés.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les États-Unis mobilisent leurs alliés d'Asie du Sud-Est pour faire face à ce que de hauts responsables américains ont appelé la priorité numéro 1 des États-Unis en matière de sécurité nationale, les menaces posées par le nucléaire et les missiles nord-coréens. Les ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN, l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est, tiennent une réunion aujourd'hui à Washington. L'administration Trump, selon un officiel du Département d'État, exhorte ces nations, entre autres mesures, à couper leurs liens diplomatiques avec Pyongyang.
Le président Donald Trump et le leader de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, se sont engagés hier à parvenir à une percée diplomatique pour la paix au Moyen-Orient. Les Palestiniens et les Israéliens doivent travailler ensemble pour arriver à un accord, a déclaré M. Trump, ajoutant qu'il aimerait être un médiateur, un arbitre ou un facilitateur et promettant qu'ils y arriveront ensemble. De son côté, M. Abbas, qui était reçu hier à la Maison-Blanche, s'est dit convaincu que les parties seront capables, sous la houlette courageuse et les grandes qualités de négociateur de M. Trump, de conclure un accord de paix historique.
Toujours à Washington, la Chambre des représentants doit voter aujourd'hui sur un projet d'abrogation et de remplacement de l'Obamacare, le programme d'assurance maladie de l'ancien président Barack Obama. Le leader de la majorité républicaine, Kevin McCarthy, qui a annoncé ce vote, assure que le nombre requis de voix est maintenant réuni pour l'adoption du projet. Après l'échec du 24 mars dernier, la minorité démocrate reste opposée à la dernière mouture de ce projet.
Les opposants au président socialiste Nicolas Maduro restaient mobilisés jeudi au Venezuela, encore secoués la veille par des violences lors de manifestations qui ont porté à 32 le nombre de morts depuis avril. Avec le soutien de camions blindés anti-émeutes, la police et la garde nationale ont repoussé mercredi les manifestants. La Minute Éco d'Ilidico.
Le Rwanda importe d'Afrique du Sud 10 rhinocéros noirs pour booster le tourisme. La transaction d'un coût d'environ 2 millions de dollars s'inscrit dans le cadre des efforts gouvernementaux pour réintroduire les espèces en voie d'extinction dans le parc national de l'Akagera afin d'attirer plus de touristes. Exim Bank de Chine vient d'accorder un prêt d'1,5 milliard de dollars pour la seconde phase du projet ferroviaire Standard Gauge Railway au Kenya. Ce financement est destiné à la construction de 120 km de voies ferrées entre Nairobi et les zones économiques viabilisées de Naivasha, ainsi que l'échange géothermique d'Olkaria. Le gouvernement fédéral nigérian va réémettre le 10 mai prochain sur le marché local des obligations d'une valeur totale de 446 millions de dollars. L'opération se déroulera en plusieurs tranches sur 2 jours. Ouverture hier à Durban, en Afrique du Sud, du Forum économique mondial pour l'Afrique. À cette occasion, l'organisation African Media Agency annoncera les personnalités 2017 dans la catégorie business et entrepreneuriat. 76 personnes basées en Afrique ou dans la diaspora seront honorées pour la réussite de leur entreprise, leurs réflexions innovantes et leur engagement dans la promotion de la diversité et l'inclusion.
À présent, les sports avec Bagassi Koura. Bagassi, bonjour.
Oui, bonjour Idrissa.
Football demi-finale de la Ligue des Champions, Monaco battu hier soir à domicile par la Juventus.
Oui, 2-0 au stade Louis II de Monaco, un doublé de Gonzalo Higuain. L'Argentin a ouvert la marque à la 29e minute avant de doubler la mise à la 59e. L'AS Monaco, malgré un Kylian Mbappé entreprenant, a bien tenté de percer le rideau défensif turinois, mais sans succès, notamment en deuxième période. Monaco, en passe de devenir le champion de France 2017, a compromis sérieusement ses chances avec une telle défaite, d'autant plus que la Juve est imbattable chez elle.
En Ligue Europa, l'Ajax a infligé une correction à un autre club français.
Oui, l'Olympique Lyonnais, avec ce score sans appel de 4-1 pour le club de la capitale néerlandaise, qui prend là une option sérieuse avant le match retour en France. Le Burkinabé Bertrand Traoré, auteur d'un doublé, a ouvert le score dès la 25e minute. Lyon n'a jamais battu l'Ajax d'Amsterdam en Coupe d'Europe. Pour nos confrères de l'équipe en ligne, il faudra un immense miracle au retour à Lyon pour renverser la situation.
Remise des records à zéro en athlétisme, une injustice pour Paul, recordman du saut en longueur.
Oui, le détenteur du record du monde du saut en longueur, Michael Powell, scandalisé par la proposition de la Fédération européenne d'athlétisme de remettre à zéro tous les records d'Europe, voire du monde, avant 2005, a jugé mercredi qu'il s'agit d'une injustice. La proposition de l'AEA doit encore être approuvée par la Fédération internationale en août prochain. Pour l'Américain âgé de 53 ans, c'est une injustice et une gifle. L'objectif de la proposition de l'AEA est d'avoir sur les tablettes des performances moins sujettes aux doutes quant à un éventuel dopage, selon le document de travail de l'AEA publié ce lundi.
Tennis, Maria Sharapova va-t-elle prendre part au prochain tournoi de Wimbledon?
Les organisateurs de Wimbledon vont attendre le 20 juin prochain pour décider de la participation ou non de Maria Sharapova. Suspendue 15 mois pour dopage, Sharapova a fait son retour à la compétition fin avril en atteignant les demi-finales du tournoi de Stuttgart. L'ancienne numéro 1 mondiale peut encore se qualifier directement pour le tournoi du Grand Chelem. En faisant une percée dans le top 100, Sharapova doit encore participer au Master 1000 de Madrid et Rome. Et puis enfin, en NBA, les résultats des playoffs.
Conférence Est, Cleveland a encore battu Toronto 125 à 103 et mène la série 2-0. Conférence Ouest, San Antonio a égalisé avec Houston, 1-1, en battant les Rockets 121 à 96.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sidoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Tchad, depuis la crise en Centrafrique, des milliers de Tchadiens sont rentrés à N'Djamena depuis 2014. Le plus grand camp se situe en périphérie de la capitale tchadienne à Gaoui. Ils sont plusieurs milliers à vivre dans ce camp, mais sans assistance. C'est là que s'est rendu l'envoyé spécial de VOA Afrique au Tchad, Nicolas Pinault. Voici son reportage.
À Gaoui, il y a longtemps que les grandes agences humanitaires et autres ONG ont plié bagage, plus d'un an déjà. Pourtant, la majorité de ces Tchadiens qui sont arrivés de Centrafrique en 2014 sont toujours là. Tous musulmans, ils ont fui les violences et les machettes des anti-Balaka après la chute de la Séléka et du président Michel Djotodia. Le doyen du camp a 110 ans, Adam Ishak. C'était l'imam du quartier de Boirab à Bangui. Après un demi-siècle passé dans la capitale centrafricaine, il a dû fuir.
J'ai vu les anti-Balaka prendre le quartier dans la nuit. On m'a mis dans une voiture pour aller au PKC, mais j'ai vu des corps partout.
Les retournés se sentent oubliés. La plupart sont nés en Centrafrique et doivent se débrouiller dans ce pays qu'est le Tchad, qui n'est pas vraiment le leur. N'Djamena a mis à leur disposition un terrain, mais aujourd'hui, le site cumule les difficultés. Seulement 40% des latrines fonctionnent, la moitié des pompes à eau sont à l'arrêt. Le centre de santé le plus proche est à 3 km. Idriss Moussa Salé est un ancien retourné du camp de Gaoui. Il a réussi à sortir du camp et travaille aujourd'hui pour OCHA, le Bureau des Nations Unies pour les Affaires Humanitaires.
Il y a des femmes et des enfants qui souffrent de beaucoup de choses ici, des maladies hydriques, du paludisme, des femmes enceintes qui accouchent par terre, à même le sol, sans assistance d'une personne qualifiée.
Sous les tentes, la chaleur est intenable pour les familles qui s'entassent dans le camp. Zouera arrive vendre des beignets au PK5. Lorsqu'elle habitait Bangui, elle fait visiter son abri à VOA Afrique.
Depuis 3 ans et 4 mois, c'est comme ça.
Autre point noir du camp de Gaoui, l'accès à l'éducation. Ici, les quelques salles de classe qui servent d'école abritent 600 enfants pour 5 enseignants. Démunis de tout, les professeurs tentent l'impossible chaque jour, éduquer les enfants de Gaoui et leur donner l'espoir d'une vie meilleure. Alni Rama est le directeur de cette école.
Il nous manquait maintenant des manuels didactiques pour les élèves et pour les enseignants aussi. Et vous avez vu les élèves même rester par terre parce qu'il manquait de table-banc. Mais les enseignants ici, ils entraînent des enseignants volontairement, il n'y a pas de salaire.
Les retournés de Gaoui ont tout perdu en Centrafrique et ne savent pas s'ils reverront un jour Bangui, la rancœur restant tenace entre chrétiens et musulmans. Zenaba Abdullah vivait dans le quartier de Miskine. Elle a réussi à fuir avec son mari et ses 5 enfants.
C'est difficile, c'est une rancune. Jusqu'à présent, ça continue, c'est une rancune. Mais les chrétiens, là, ils gardent toujours. Surtout à notre côté, à Miskine, là. On ne peut pas aller là-bas. Toutes nous sommes perdues, là. La maison, c'était la nuit, c'était tout détruit. Même mon grand-sœur, là, elle a des maisons à Gobongo, là, tout détruit même, pour nous aussi. Actuellement, je n'ai rien à Bangui.
Environ 82 000 personnes, des retournés de Centrafrique, attendent aussi une assistance, en majorité dans le sud du Tchad, selon OCHA. Depuis N'Djamena au Tchad, Nicolas Pinault, VOA Afrique.
Votre rendez-vous quotidien, 24h/24, sur VOA Afrique, N'Djamena au Tchad, sur 93.1 FM.
Retour sur le départ au Sénégal du ministre de l'Énergie et du Développement des Énergies Renouvelables qui a été démis de ses fonctions par le président Macky Sall. L'ex-ministre aurait refusé de signer la cession de 2 blocs d'exploration pétrolière au groupe français Total. En 2014 déjà, Thierno Alassane Sall avait été limogé du gouvernement suite à sa défaite aux élections locales dans la ville de Thiès, où il est le coordonnateur de la majorité au pouvoir. Ce nouveau limogeage soulève beaucoup de questions sur la gestion des ressources pétrolières et gazières du Sénégal, nous dit de Dakar notre correspondant Seydina Abagay.
Démission ou limogeage, les conditions du départ de Thierno Alassane Sall ne sont toujours pas connues. ce qui laisse le Sénégalais lambda dans une incertitude totale. Pour Papiskan, le départ brutal de l'ex-ministre de l'énergie est entouré de zones d'ombre.
Tiano Alassane Sall est une personne que je respecte beaucoup, une personne de principe. Donc, s'il y a, par exemple, et c'était une deuxième fois, hein, c'était pas la première fois qu'il quittait le gouvernement du président Macky Sall. Donc, si Tiano Alassane Sall quitte le gouvernement, c'est parce qu'il y a vraiment un problème peut-être d'intérêt. Alors, l'intérêt se situe où? Est-ce que c'est un intérêt général ou est-ce que c'est un intérêt crypto-personnel? Ça, personne n'en sait absolument rien.
Ibrahima Khalilullah Diagne déclare, quant à lui, qu'il n'y a pas de transparence dans le management de la question pétrolière.
Bon, je dirais que c'est une gestion malhonnête. Parce que on ne sait pas le contour réel de ce qui se passe dedans. Tout le monde dit qu'il y a du pétrole par-ci, par-là, mais on ne sait réellement comment se passe la gestion de ce pétrole-là.
Pour le député sénégalais Cheikh Oumar Sy, le plus important est de connaître les tenants et les aboutissants de ce limogeage à la va-vite.
Tout le monde sait que le Sénégal aujourd'hui a du pétrole et du gaz. Qu'est-ce qui a poussé le ministre à démissionner? Qu'est-ce qui a poussé le président à le limoger? Le plus important pour le citoyen sénégalais aujourd'hui, c'est de savoir et de connaître objectivement si ces questions-là sont liées au cas de Petrotim ou c'est lié à l'acquisition de Total des blocs au niveau de l'UFISC. Donc c'est une question fondamentale parce que juste après son limogeage, Total a signé des contrats avec le gouvernement du Sénégal le même jour, presque à une heure de temps de différence. Donc nous souhaiterons en tant que Sénégalais être édifiés.
Cheikh Oumar Sy, par ailleurs secrétaire exécutif du réseau pour la bonne gouvernance des ressources minérales, estime que le Sénégal doit se doter de mécanismes de régulation afin de préserver l'intérêt des citoyens.
Nous avons l'exécutif qui est dans son rôle, mais nous devons avoir le législatif qui doit être dans son rôle. C'est ça la vraie démocratie, pour permettre l'équilibre. Aujourd'hui, Donald Trump, malgré tout ce qu'il a dit aux États-Unis, il est contrôlé par le Sénat, il rencontre d'énormes difficultés vu qu'ils ne sont pas d'accord avec ce qu'il veut faire. C'est ces mêmes mécanismes qui doivent être installés au Sénégal, où le président aussi doit être au moins contrôlé sur les actions publiques, parce qu'on ne peut plus s'asseoir et donner des contrats de 25 ans qui engagent toute une génération et avoir une seule signature qui engage 14 millions de Sénégalais, alors que la contrepartie qui est l'Assemblée nationale ne puisse même pas jouer son rôle.
Près de deux ans après son retour dans le gouvernement sénégalais, Tierno Alassane Sall quitte le ministère de l'énergie et du développement des énergies renouvelables. Son départ fracassant fait plus que jamais renaître le débat sur la question de la gestion transparente du pétrole et du gaz récemment découvert au Sénégal. Seydina Aba Gueye, à Dakar, pour VOA Afrique.
FM 102, c'est VOA Afrique, à Dakar, au Sénégal, 24h sur 24.
Choc frontal et virulent hier soir lors du débat télévisé entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, finaliste de la présidentielle française. À quatre jours du second tour décisif de dimanche, les échanges entre les deux candidats au programme diamétralement opposé ont souvent viré à la cacophonie et au pugilat verbal au terme d'une campagne très tendue. Pour analyse, John Linden a joint à Paris Vincent Hédin, professeur de rhétorique politique à Sciences Po.
C'est une défaite pour le débat républicain parce que c'était très abaissé. Je pense que Marine Le Pen a tenté son va-tout et du coup elle a vraiment baissé le niveau du débat en étant extrêmement agressive et en étant dans le registre de l'insulte. Et Macron a été surpris, il a essayé de contre-attaquer, mais au final, ce que je retiens, c'est surtout un mauvais débat.
Ce débat va-t-il changer les positions des électeurs dans un camp comme dans l'autre?
Je pense pas que ça aura un impact considérable, comme souvent. Là, on a quand même vraiment vu les limites de Marine Le Pen, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de stature présidentielle. Contrairement à Donald Trump, même de façon délirante, elle n'avait pas de projet pour éradiquer le terrorisme, pour sortir de l'Europe, etc. Macron est apparu comme beaucoup plus calme et beaucoup plus posé. Vous savez, aujourd'hui, la campagne, elle se fait surtout après le débat, c'est-à-dire que maintenant, les équipes de militants vont relayer les bons passages, les bonnes séquences, les petites phrases sur les réseaux sociaux, et très honnêtement, c'est ça qui va peser jusqu'à samedi, mais il n'y a pas eu le basculement majeur, donc comme c'est Emmanuel Macron qui était très en avance dans les sondages, c'est plutôt lui qui ressort conforté du débat.
Vous avez parlé de Donald Trump, vous parlez également de sondages, est-ce qu'on ne peut pas craindre un effet surprise en France, comme ce fut le cas ici aux États-Unis?
Alors, ouais, c'est une bonne question, mais aux États-Unis, en réalité, si vous regardez, Hillary Clinton, elle a eu 3 millions de voix d'avance sur Donald Trump. Et après, c'est le mode électoral qui fait que dans certains États, on n'avait pas vu venir ce qui s'est passé. En France, bon, le scrutin est très classique et complètement national. Au premier tour, d'ailleurs, les sondeurs ont eu absolument raison au demi-point près ou au point près. Donc, il peut y avoir un tout petit écart par rapport à ce qu'ils mesurent. Mais pour l'instant, ils ont l'air assez fiables. Il faudrait un événement hors du débat pour qu'il y ait une surprise immense. Il faudrait qu'il y ait un attentat gigantesque, ce genre de choses. Mais sur le débat lui-même, à mon avis, c'est plié.
Au niveau du maintien ou non à l'Union européenne, Macron prône le maintien, Le Pen le retrait. À votre avis, que veulent les Français ?
On est très énervé par Bruxelles, mais au final, je pense qu'on aurait plutôt trop peur de sortir et que donc, sans adhésion, sans emballement, là-dessus, je pense aussi que Macron n'a pas forcément perdu des points. Il faut quand même comprendre que le vote des Français, ça va être un vote triste. Il y a peu de gens qui sont fans du programme d'Emmanuel Macron, quoi. Les Français votent pour lui parce qu'ils n'ont pas le choix. Ça les emballe pas. Ils pensaient juste que c'était le meilleur rempart face à Le Pen.
Vincent Hédin, professeur de rhétorique politique à Sciences Po.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, le président Donald Trump rencontre ce jeudi à New York le premier ministre australien Malcolm Turnbull. C'est le premier retour du chef de l'exécutif américain dans sa ville natale depuis son accession à la Maison-Blanche. Si le président Trump reste populaire chez ses électeurs, eh bien ce n'est pas tout à fait le cas chez lui à New York. Le point dans ce reportage de Tina Trin, présenté par Lionel Gahima.
Tout le monde est le bienvenu à New York, clame cette publicité de la mégalopole avec ses plus de 8,5 millions d'habitants. Pourtant, il n'y a pas de garantie que l'accueil qu'elle réservera à l'un de ses fils les plus célèbres, le président Donald Trump, sera chaleureuse.
He's not welcome here.
Il n'est pas le bienvenu ici, déclare sans embâge Amanda Johnson, directrice du Parti de famille laborieuse, qui attend se joindre à d'autres manifestants contre la venue du président Trump. Et n'est pas la seule. Souther Teague et Ravi De Rossi ont ouvert un bar où des gens peuvent faire des dons à des organisations dont l'existence est menacée par la politique de Donald Trump. L'un des clients dit qu'il supporte de plus en plus mal cette administration. 100 jours, je souhaite que la souffrance diminue, mais ce n'est pas le cas. Chaque jour, on est à se demander, qu'est-ce qui se passe au juste ? Bien entendu, tous les Américains ne vivent pas dans les grandes villes comme New York, explique Marc Moreau de la Brookings Institution, un groupe de réflexion de Washington.
We have other less urban places in which people are living.
Nous avons d'autres endroits moins urbanisés où la population est moins dense, plus rurale et souvent au chômage. Donald Trump a été un candidat du monde rural qui a attiré beaucoup d'électeurs dans les zones rurales peu peuplées. Trump a remporté 2584 comtés contre 472 pour Hillary Clinton. Toutefois, la Brookings Institution révèle que les comtés gagnés par Trump contribuent pour moins au PIB des États-Unis, soit 36% contre 64% pour ceux ayant voté pour Madame Clinton. Donald Trump a perdu la ville de New York par une marge d'un vote sur 5. Les sentiments de la grande métropole à son sujet n'ont pas changé depuis la présidentielle de novembre. Soutient Amanda Johnson, du Parti des familles laborieuses.
Nous apprécions le succès des gens qui s'efforcent de réaliser leurs rêves. Cette ville, c'est celle des débrouillards. À ce que je comprends, lui a réussi en foulant aux pieds les gens et nous n'acceptons pas cela.
Cela n'empêchera pas pour autant le président Trump de s'entretenir avec le premier ministre australien Malcolm Turnbull à bord de l'USS Intrepid, un ancien porte-avions transformé en musée sur le fleuve Hudson à New York.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, en direct de Washington. Voilà pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi à Daniel Brown pour la mise en onde, Jean-Roger Bion pour le suivi de l'actualité. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seydou Dia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.